Et alors, les amis, on est de retour pour un tout nouvel épisode du podcast Road to 10 Million. C'est le premier hors-série de cette saison. Je vous ai entendu. Je vous ai posé pas mal de questions sur Instagram suite au dernier épisode que je vous invite à aller consulter. C'est RTTM numéro 11, je crois. Et je vous ai demandé sur Instagram, du coup, qu'est-ce que je devrais faire pour placer ce podcast en numéro 1 des tendances et de la catégorie business surtout. Je crois que dans la catégorie entrepreneuriat, qui est une sous-catégorie de la catégorie affaires, business, c'est la même chose. Je crois qu'on est pas mal, je crois qu'on est top 10 bien. Et le dernier épisode, figurez-vous, c'est classé dans le top 20 des classements par épisode et pas par podcast. Du coup, après 22 heures de diffusion, sachant que la plupart des épisodes qui sont dans cette catégorie-là sont souvent là depuis plusieurs jours. Donc c'est un plaisir, merci beaucoup à tous pour vos feedbacks sur le dernier. Je pense que de tous, c'est celui que j'ai préféré, vraiment, j'ai préféré faire. Et pas juste parce que j'étais sur mon rooftop, mais aussi parce que j'ai eu l'occasion voilà, de vous donner un petit peu des idées en mitraillette. Ça, j'aime bien. Franchement, la petite partie avec remettre les pendules à l'heure, je pense que je vais vous la faire à chaque fois, parce que j'ai beaucoup de pendules à remettre à l'heure. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont suivi un petit peu les actualités LinkedIn, parce que j'ai fait un petit post de relais du podcast qui a suscité, disons, quelques discussions. Ne vous inquiétez pas. Samedi ou dimanche, voilà, on va placer les gens qui ont fait des remarques un peu désobligeantes en position latérale de sécurité afin de dénoncer voilà, les quelques petites calomnies. Bon, je grossis un petit peu le truc. Il y a surtout une personne qui a un peu essayé de dire des trucs crado. Il va falloir forcément que je m'occupe un petit peu de ce qu'elle a raconté sans envenimer la situation. Mais forcément, voilà. Enfin, je ne vais pas le faire pour lui parce que je pense que de toute façon, il ne va pas écouter ce podcast. Et j'espère pour lui parce que sinon, il va tout s'infliger. Dans tous les cas, je mettrai le passage sur lui à la toute fin pour qu'il doive s'imposer toute l'écoute de ma douce voix. Ou alors, je le mettrai à un endroit aléatoire. Je ne sais pas exactement. Bref, en tout cas, voilà. Cette personne-là, je vais surtout répondre à ce qu'il a raconté pour pouvoir vous donner à tous voilà, les informations pour pouvoir vous défendre quand ce genre de choses-là vous arrive, puisqu'il y a eu quelques petites calomnies. En fait, c'est un sophisme qu'a fait cette personne en commentaire, donc je vais m'en occuper. Et puis il y a eu voilà, c'est plutôt un petit rigolo, j'avoue, je ne l'ai pas forcément mal pris celui-là, mais je vais en profiter. Bon, il n'a pas cherché à répondre logiquement à ce que j'ai écrit, mais disons qu'il a... Bref, je ne vais pas empiéter, je vais en parler samedi, mais voilà, il y a une troisième personne qui est juste une personne qui a mis un petit commentaire désobligeant, voilà, qui en fait n'a même pas porté ses couilles pour mettre lui-même un commentaire, mais a mis un petit commentaire pour valider une critique qui avait été faite à mon égard. Et donc ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces trois personnes en temps voulu. Mais je ne vais pas m'en occuper pendant cet épisode parce que ça va sinon diluer la valeur de mon propos, parce qu'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit hors-série sur la prépa. Vous l'avez lu dans le titre, certainement. Je ne sais pas comment je l'aurais titré. Mais j'avais envie de vous parler de ça. Et je pense que ce sera le premier d'une série que je vais poursuivre, évidemment. Parce qu'après la prépa, eh ben, y a eu l'école de commerce. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que, du coup, je suis un jeune diplômé 2021 d'HEC. Donc, avant ça, forcément, j'ai dû travailler un petit peu dur en prépa. Et donc, je vais commencer par vous raconter ça. Et pourquoi est-ce que je pense que ça peut être intéressant pour vous? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de l'environnement préparationnaire, parce que c'est un cadre qui a été optimisé pour la performance. Et donc forcément, voilà, une dizaine de milliers d'élèves, ou peut-être 15 000 chaque année, qui sont tous opposés. Enfin, voilà, et on prend que les meilleurs pour les écoles tout en haut. Et donc, en fait, le match, c'est très simple, ça joue sur un concours. Et donc forcément, tu as 2 ans pour te préparer. Et donc là, chaque prépa a une stratégie différente. Et il y a quand même quelques petits points qui sont intéressants à savoir, parce qu'en fait, tout le monde a une durée de temps donnée. Hein. Tu n'as pas 15 ans pour te préparer, tout le monde a 2 ans à partir du moment où tu siffles le premier jour. Tout le monde ne part pas du même endroit, mais tout le monde a le même temps pour se préparer. Et donc, voilà, il y a des géants qui arrivent à faire de la magie en 2 ans, c'est-à-dire partir de très très bas et arriver très très haut. Et souvent, ils font à peu près tous les mêmes choses. Donc, je vais me servir un petit peu de cet épisode pour pouvoir vous parler un petit peu via mon expérience de tout ce que j'ai appris sur la performance en prépa. Voilà. Alors, donc, je viens de passer en fait 1 heure à écrire un petit peu tout ce que je voulais vous raconter, donc j'ai dû me rappeler plein de souvenirs de la prépa, et honnêtement, je m'en rappelle comme un super moment. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui l'ont un peu plus mal vécu, et forcément, moi, comme l'issue a été plutôt heureuse, mais complètement heureuse, eh bien, je pense que mon cerveau a dû intégrer, enfin, a dû imprimer différemment les souvenirs dans ma mémoire. Mais au global, je m'en rappelle comme une époque très riche de sens et de stimulation intellectuelle, et disons que ça se joue avec la période que je suis en train de vivre actuellement en termes de stimulation intellectuelle, mais j'ai jamais vraiment retrouvé ça. Alors certainement pas en école de commerce, certainement pas pendant mes stages. Et donc, voilà, il y a quand même un truc qui est assez ambivalent, c'est qu'à la fois c'est très dur, mais c'est pas pour autant que tu passes un mauvais moment, je trouve. C'est quelque chose qui est voilà, très riche de sens, et finalement, voilà, je pense que vous êtes en train de comprendre un petit peu ma philosophie de vie sur ces trucs-là. Je pense qu'une vie riche, c'est pas forcément une vie sans souffrance, c'est une vie avec de la souffrance qui a du sens et qu'on peut choisir. Donc voilà, je trouve que la prépa, c'est génial dans la mesure où on y trouve, voilà, on accorde du sens à l'objectif, c'est-à-dire que ça nous intéresse quand même d'intégrer une bonne école de commerce, et on comprend pourquoi est-ce qu'on fait ces 2 ans très très durs. Voilà, donc je vais vous raconter tout ça, je pense, d'un point de vue chronologique, en commençant par mes années lycée. Alors, bon, moi vous savez, je suis Versaillais. J'ai fait un petit post d'ailleurs, oui, si vous n'avez pas vu sur LinkedIn, le club de foot de Versailles a été racheté par Alexandre Mullier très récemment, et donc je vais pouvoir participer un petit peu à l'aider dans ce projet. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai fait un petit post pour le relayer. Donc allez suivre le FC Versailles. Là, on vient de faire un match nul contre Rouen hier. C'est un petit peu décevant. Mais voilà, le projet, c'est de l'emmener en Ligue 2. Je suis déjà en train de m'égarer. Mais bon, j'aurais bien aimé pendant la prépa avoir un club de foot à Versailles. Ça m'aurait permis de faire 2 heures de pause ailleurs que sur mon ordi avec YouTube. Voilà, donc il veut emmener le club en Ligue 2 en 3 ans. Et après, voilà, bon, je ne sais pas en combien de temps ça peut atteindre la Ligue 1, mais ça serait très marrant d'avoir une équipe à Versailles. Donc, dans tous les cas, je vais m'employer du mieux que je peux pour l'aider dans ce projet-là. Alors, donc, je vais vous parler de mon lycée. Pourquoi est-ce que c'est important de vous parler de ça? C'est parce que moi, en fait, j'ai fait le lycée et la prépa au même endroit. Je l'ai fait à Notre-Dame-du-Grand-Champ. Donc, j'ai eu mon bac en 2014. Donc, forcément, j'ai commencé la prépa la même année. Et j'ai intégré mon école de commerce en 2016. Donc, moi, je partais à la base pas avec un très bon dossier. Parce que même si j'ai eu une mention très bien au bac, je crois que j'ai eu 16,5. Je partais, enfin, c'était déjà pas gagné, parce que j'avais eu 7 au bac de français à l'écrit et à l'oral, à tel point que j'ai cru que c'était un bug, en fait. Je vous jure, quand j'ai vu les résultats, donc en fin d'année de première, parce que j'ai fait une première S, et j'étais au terminal S derrière, quand j'ai vu les résultats, parce qu'il y avait le bac d'histoire géo et TPE en même temps, j'avais 18 au TPE, 14 en histoire, et 7,7 en français. Et en fait, j'avais cru que c'était l'heure à laquelle seraient publiés les résultats. J'étais dans un déni, mais complet. J'ai du coup 14h18 ou 18h14. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi il y avait marqué 7,7. Et tout était à la suite, en fait, dans une ligne. Et je vous jure, je n'y ai pas cru. Parce qu'en fait, j'étais pas nul. J'étais pas bon. Mais je valais pas 7,7 quand même. 7,7, c'est. En fait, tu peux vraiment penser qu'il y a un bug parce que c'est la même note. Tu dis, ah, ils ont mal rempli. En fait, il a misclick, c'est-à-dire, il a fait copier-coller ou alors. Voilà, il s'est trompé dans le remplissage des notes. Et en fait, non. Voilà, visiblement, j'ai fait un hors-sujet au commentaire de texte que j'avais choisi en première, et disons que je n'ai pas passé un très bon quart d'heure à l'oral de français. C'était quoi? C'est, en fait, j'avais pas compris, je crois, la discipline français à l'oral. J'ai pas compris, en fait, c'était pas un oral où fallait réciter le commentaire de texte que tu avais appris. Parce que tu arrives avec un corpus de texte, tu dois le commenter, et en fait, moi, c'est l'examinatrice, elle avait fait une petite coquinerie, c'est-à-dire qu'elle avait changé la problématique. Elle m'avait demandé, je me rappelle de la problématique, je me rappelle pas du texte, c'était en quoi ce texte représente-t-il le genre fantastique. Et j'avais fait, en fait, un déni de j'avais fait un déni de problématique, je crois. Je me dis, alors j'ai aucune idée de quoi répondre à cette question, donc tu sais quoi, on va oublier, on va faire comme si tu me l'avais pas dit, et en fait je vais faire le commentaire que j'ai appris en cours. Voilà, donc j'ai récité mon truc, ça s'est très mal passé. Elle m'a posé une question, à un moment, je me souviens, j'ai répondu que j'ai dit, ah, c'est un petit peu large comme question. Elle m'a répondu, je vous permets pas de critiquer mes questions. Donc dès là, j'avais compris en sortant que c'était pas bien embarqué, et que voilà, bon, la note serait pas très bonne, mais quand même 7 à l'écrit, 7 à l'oral, ça m'a fait un petit coup de chaud. Et donc, j'étais quand même assez fier d'obtenir la mention très bien l'année qui a suivi. Donc du coup, ça veut dire que j'ai des bonnes notes dans toutes les autres matières. Je me rappelle plus exactement de mes notes, mais je crois que forcément, pour que ça tire cette moyenne-là vers le haut avec les coefficients des matières scientifiques, j'ai eu des bonnes. Je crois que j'avais 17 en maths, 18 en physique, j'ai un truc genre peut-être 19 en SVT. Et surtout, ma grande fierté, 18 en philo. J'ai eu 18 en philo au bac. Et vous allez voir que ça m'a joué des tours, parce que j'ai croyais vraiment, en arrivant en prépa, que j'étais chaud en philo. Je me suis fait punir. Vous allez voir par la suite. Donc voilà, j'ai eu des assez bonnes notes au bac. Et en fait, en terminale, voilà, j'ai réussi un peu à me surpasser. J'ai fait 2 bons trimestres, le premier et le second, qui sont ceux qui sont importants pour le dossier. Et heureusement, ça m'a donné un genre de cas à défendre. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les top prépas, quand vous avez 7,7 au bac de français, qui sont des notes visibles sur votre dossier, ils ne regardent même pas votre dossier, hein, ça part à poubelle. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas le risque. Ils ne veulent pas savoir que vous êtes embrouillé avec l'examinatrice. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il fallait mytho, en fait. Il fallait dire que j'avais été malade. Mais alors, il fallait vraiment inventer un très très bon mytho pour dire que j'avais été malade à l'écrit et à l'oral. Donc, Donc voilà, j'avais pas choisi cette stratégie. Donc bref, tout ça pour dire que mon dossier n'était pas très solide et qu'il fallait vraiment que j'aille discuter avec les prépas. J'avais fait toutes les portes ouvertes et tout pour aller voir. Parce que sinon, je savais que voilà, j'aurais pas gain de cause. Donc j'avais présenté des prépas qui correspondaient à mon niveau de terminale, mais pas au niveau que représentait mon dossier pour une personne qui ne me connaissait pas. Donc j'avais présenté, je me rappelle, voilà, mon top choix, c'était Saint-Louis à Paris. J'avais trop kiffé pendant la visite. Et ensuite, voilà, j'avais mis quoi ? J'avais dû mettre Hoche, il me semble. J'ai mis Hoche, j'ai dû mettre pas Stanislas, mais j'étais pas allé taper les Henri IV, Louis le Grand, etc. Moi, j'avais pas le niveau, je savais quand même. J'ai pas fait preuve d'hubris, je connaissais ma place. Donc, et j'avais mis quand même Notre-Dame du Grand-Champ, mais tout en bas. Parce qu'en fait, pour un lycéen, quand t'es en terminale, voilà, j'habitais chez mes parents, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas du tout envie d'être chez mes parents l'année d'après. Je savais pas qu'en fait, pour la prépa, c'était complètement un avantage d'être chez ses parents, parce que c'est pas une année où tu kiffes, pas deux années où tu kiffes du tout. Donc, je voulais me casser loin, loin, loin. Je voulais pas du tout être chez mes parents. Et il se trouve que j'avais un cousin en prépa, donc en deuxième année. Au moment où j'intègre la prépa, lui, il avait intégré l'école de commerce. Et donc lui, bon, il se trouve que c'était une grosse tête. C'est un peu la tête de ma famille. Et Thibaut, si tu, probablement que tu n'écoutes pas ce podcast. Il avait fait 27e à HEC, ce con. Il était 27e. Donc forcément, il avait laissé un peu un, disons, un bon a priori avec le nom de famille Lyon. Et donc, j'avais pu passer sur un malentendu parce qu'ils étaient venus le voir en mode « Ouais, ton cousin, là, avec son dossier éclaté, et il est vraiment nul. » Il avait dit « Non, non, non. » « Ah oui, non, mais c'est ça. C'est lui qui avait menti, en fait. C'est lui. C'est lui qui avait mytho. » Il avait dit « Non, je crois qu'il était malade ou je sais pas. » Mais oui, c'est ça. C'est ça. Je m'en suis pas souvenu quand j'ai commencé à écrire. Oui, bah oui, c'est lui qui avait menti. Donc, disons que je suis arrivé à Grandchamp. Honnêtement, je méritais pas. Je méritais pas du tout d'arriver à Grandchamp. Alors, je méritais, je pensais que j'avais le niveau pour être à Grandchamp, et de toute façon, l'avenir l'a prouvé, vu comment s'est déroulée ma prépa. Mais par contre, ouais, voilà, sur le dossier, s'il n'y avait pas eu le cousin dans la prépa, je pense qu'honnêtement, je ne serais pas rentré. Donc, j'étais très content d'intégrer la prépa ECS en 2014. Et voilà, donc je passe un petit été de terminale très sympa, voilà, au demeurant assez sobre, puisque j'avais 16 ans, du coup, parce que j'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE1. Donc, j'étais assez jeune. Qui a posé quelques problèmes pour la semaine d'intégration de prépa où j'ai dû voilà, faire tourner les fausses cartes. Mais bon, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, parce que j'ai un an et demi de retard, du coup, sur tous les gens de... Enfin, j'ai toujours eu un an et demi de retard sur tous les gens avec lesquels je sortais. Parce que je suis d'octobre et j'ai sauté une classe. Donc, en gros, voilà, bref. Quand ils avaient 18 ans, moi, j'avais 16 ans. Pas ouf. Bref. Donc, on arrive sur les premiers instants de la prépa. Donc déjà, pendant l'été, évidemment, un prépa, il te laisse pas tranquille. Hein, à partir du moment où t'es admis, t'es chez eux. Il t'envoie une liste de bouquins. Protagoras, de Platon, Kant, je me rappelle, parce que c'est le seul que j'avais lu de la liste, mais il y avait genre 20 bouquins. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, et qui en fait est un nom très compliqué, mais je crois que c'est le plus simple à lire de la liste. Je vous le recommande si vous voulez lire un peu de philo. Donc voilà, disons qu'ils donnent plein de bouquins à lire, personne ne les lit, et tu t'en rends compte assez vite en arrivant. Donc ça commence par une journée d'intégration, c'est pas une semaine, c'est une journée d'intégration. Je me rappelle pas de grand chose, juste que voilà, tu te fais intégrer par les deuxième années, donc en prépa on appelle ça des bisus et des carrés. Les carrés c'est les secondes années, et les troisième années, on en parlera un petit peu plus tard. Parce que ça reste en deux ans la prépa, les troisième années on va en parler après, c'est les gens qui ont redoublé. Donc tu as une journée d'intégration, et je me suis posé sur le papier pendant 5 minutes, j'étais bloqué, en fait je me rappelle pas de cette journée d'intégration, je me rappelle juste d'un truc. Je me rappelle qu'il y avait l'élection, bon c'était un autre temps, hein, jugez pas, du bisou, ça s'appelait comme ça. Et que en fait c'était, bon c'est un peu le genre le beau gosse de la promo, et je crois qu'il y avait pareil chez les filles. Alors je me rappelle comment était élu le mec, mais je me rappelle pas de comment était élu la meuf. Je crois que j'ai blackout aussi toute cette partie-là, je me souviens plus du tout. Mais en tout cas je me souviens juste que pour les mecs c'était un concours de pompe, un truc de beauf ultime. Et après, ouais. Ah putain, on était tous en ligne. Et en fait, il y avait les meufs qui passaient et qui tapaient nos abdos. Vous vous rendez compte? C'est 2014. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais ça. Tu fais la couverture de Mediapart. C'était, voilà, c'était très marrant, en fait. À l'époque, voilà, ça, je sais pas le souvenir qu'aucun mec ait été énervé par ce genre de truc-là. Ça faisait rire un petit peu tout le monde. Et puis, t'es content, tu vois. Bon, moi, j'ai pas gagné, évidemment. Hein, parce que j'ai pas fait des pompes pendant l'été. Ah, donc. Bref, tu fais ta journée d'intégration, tu découvres tout le monde et tu ne te rends pas vraiment compte que tu arrives en prépa. Parce que les premières semaines, je me souviens, mes parents étaient un peu inquiétés d'ailleurs, parce que à chaque fois que je rentrais à la maison, je faisais que dormir tout le week-end. parce qu'on sortait beaucoup ces premières semaines, mais rapidement t'es rattrapé par la réalité des choses. Et donc là, tu commences et tu découvres tes matières. Donc en ECS, il n'y en a pas des milliards. Il y a les maths, évidemment. C'est quand même une voie scientifique. C'est la majorité de ta semaine. Ensuite, tu as la géopolitique. Alors la géopolitique, c'est une variante de l'histoire géo, mais qui est plutôt organisée comme l'étude des rapports de force entre, je crois que c'était les puissances mondiales ou un truc comme ça, bref. Donc c'est vraiment, tu as des problématiques qui ne sont pas... qui sont pas historiques. Donc tu dois résoudre des questions chiantes, en fait. Bref. Donc et tu t'étudies du coup toute l'histoire par ce biais-là. La troisième matière, c'est culture générale. Ça, c'est une variante de la philo, mais c'est un peu un mix de la, enfin, ouais, du français et de la philo. Donc culture générale, ça peut être plein de choses. Tu peux aussi, par exemple, prendre c'est la poésie aussi. Tu prends des références d'art. Et donc, c'est des sujets assez larges qui visent à tester la façon dont tu mets en rapport les connaissances pour répondre à une problématique. De toute façon, on n'est plus du tout, de toute façon, en prépa sur des genres d'interro QCM, des genres de devoirs où tu as une question, il y a une réponse, en fait. Il n'y a pas de réponse aux questions. Puis vous allez voir, dans les sujets qu'on te donne en philo, en géopolitique, il n'y a pas une réponse aux questions. En maths, il y a une réponse aux questions. Et donc, disons que ce sont des épreuves d'interprétation. Et donc, faut faire du mieux qu'on peut dans toutes les matières. Et c'est un peu perturbant parce que je me rappelle qu'au démarrage, t'es un petit peu perdu parce que tu cherches la réponse, en fait. T'as pas une bonne note. Tu vois, t'as pris un 4. Et tu te demandes, en fait, pourquoi t'as pris un 4. Mais le mec qui a eu 20, il a quoi? Donnez-moi la réponse pour que j'ai 20. Et là, les profs sont incapables de répondre. Tu peux prendre la copie du mec qui a eu 17, mais t'aurais été incapable de faire comme lui. Il a un raisonnement très différent du tien. Donc c'est un peu perturbant. Donc, maths, géopo, culture générale, les langues. Moi, j'avais l'anglais et l'espagnol. L'anglais a toujours été un des points forts. Heureusement, ça m'a permis de libérer du temps pour les maths. Mais par contre, l'espagnol... alors là, je me rends compte même aujourd'hui, à chaque fois, quand je vais à Madrid et tout, etc., je vais dire « una cerveza, por favor », et faire genre que j'ai un accent. Ah oui, non, si, je suis très bon aussi pour faire genre que j'ai un accent d'espagnol en parlant vite et en mangeant les syllabes. Surtout quand j'ai bu quelques pintes. Alors là, je deviens... j'ai quelques phrases, en fait, des go-to phrases. C'était quoi déjà? C'est... Porque si se hubiera dado cuenta de lo que... Et après, tu termines pas la phrase. Et je me rappelle, parce que je crois que c'est un subjonctif bizarre. Je l'avais apprise pour les rédactions d'espagnol. Je la mettais à toutes les sauces. Comme c'était un peu dur à conjuguer. C'était pour faire les mecs, vous vous souvenez, quand vous apprenez des mots de vocabulaire, vous voulez les mettre dans les rédactions. Voilà, c'était mon truc. Ça a pas trop marché. Hein. Vous allez voir par la suite. Et ensuite, il y a une dernière épreuve qui se prépare pendant la culture générale, mais qui correspond à une épreuve du concours. C'est la contraction de texte. Alors là, c'est-à-dire on te file un bottin, enfin genre en gros tu te manges 4 pages de texte, mais imbitable, hein, pas du texte que tu comprends. Et tu dois le résumer en genre 300 caractères. Et t'as un peu l'équivalent à l'ESSEC, qui c'est la synthèse de texte. Synthèse de texte, je crois que c'est à l'ESSEC, ou à l'ESCP. Peut-être la synthèse de l'ESCP. Et donc là t'as 3 textes, et tu dois les mettre ensemble et les synthétiser. Et honnêtement ça semble hyper facile, mais c'est trop, trop, trop dur. C'est la plus dure de toutes les épreuves, vraiment. Bref, donc, tu découvres ces matières, et puis, donc, t'arrives, toi, tout fier, tu vois, t'étais dans les bons de ta classe, en terminale. Le problème, c'est que t'es que avec des premiers de la classe, parce que grand chance, ça reste, et c'est, je crois qu'aujourd'hui, c'est même encore meilleur, mais à l'époque, c'était dans le top 10 prépa France, donc, je crois que c'était 7e ou 8e, entre 6 et 8. Donc, t'arrives avec des pointures, quand même, des gens qui sont bons. Donc là, tu te dis, tranquille. Franchement, ça va bien se passer. Et tu découvres les premiers DS. Mon premier souvenir, c'est les premiers DS, c'est un DS de maths. Qui est visé à tester tes connaissances de terminale. Je me souviens parce que le prof avait, en corrigeant avait dit que ça ne serait rien de plus que des rappels de terminale. Des rappels de terminale. Enculé de Manu. On va en reparler, hein, de Manu. C'était M. Emmanuel Girard, qu'on appelle tous Manu d'ailleurs, qui est un petit peu le papa de tous les ECS. Je ne sais même pas s'il est toujours à Grandchamp. Une personne très mystérieuse, un genre de... en fait, avec une vibe paternelle, mais un corps de pilier de rugby. C'est-à-dire que vraiment, il était épais. C'était une brique, un frigidaire, mais hyper tendre. Et quelqu'un qui est capable, en fait, de t'infliger des dommages mentaux avec des remarques dites par, en fait, mais de façon très gentille. Pas pour te blesser. Juste, il te dit une remarque, il marmonne des trucs dans sa barbe quand tu n'arrives pas à faire un exercice au tableau. Et en fait, toi, t'entends pas parce que t'es au tableau. Mais tu sais qu'il parle sur toi. Et le pire, ce qu'il faisait, c'est que parfois, quand t'étais au tableau, il parlait avec un élève au fond de la classe. C'est-à-dire que quand tu te lèves et que tu vas au tableau, il prend ta place, il s'assoit là où tu étais, parce que tu t'es levé, tu as laissé ta chaise. Et du coup, forcément, tu as un voisin de droite, un voisin de gauche. Et en fait, il se fout. Il se fout de ta gueule avec les voisins, avec les voisins, et il les fait participer. Et forcément, quand t'es les voisins, parce que j'ai été le voisin et le critiquer au tableau, tu peux pas en fait. Tu peux pas dire non, bah, viens, on le respecte, soyons gentils et tout. Et peut-être qu'il est pas dans un bon jour. Non. Tu es obligé de faire un rire gêné. Bref, donc premier DS de maths. Je me rappelle pas de ma note. Je me rappelle juste que j'étais 39e sur 42 dans la classe. Et là, waouh. C'est comme si c'était la première note et que je savais que j'avais eu grand champ, j'étais bien loti. Je me suis dit, et putain, mais comment je vais faire? C'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je me rappelle que j'avais trouvé ça tellement dur. Je me suis dit, mais je peux pas, en fait, il manque tellement d'écart, ça va être horrible. Et donc, pour la petite histoire, celui qui a fait 42e, il a fait 15e à HEC. Hein, après, le 42e, c'était un Allemand, c'était parce qu'il parlait pas français. Il parlait pas bien français, il avait pas compris le DS. En fait, c'était un génie, voilà. C'est David, si tu écoutes ce podcast. Bon, voilà, c'était brutal. Qualité allemande. Je sais même pas si t'étais 15e, mais bon, je pense que t'as bien fait un top 30. Hein. Donc aujourd'hui, quelqu'un de très successful et qui bosse dans une boîte assez proche de notre secteur, d'ailleurs. Figurez-vous. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, j'en étais. Ouais, je fais 39 sur 42, je commence à flipper. Je me dis, ça va peut-être aller mieux dans les autres langues. Philo, je crois que j'étais chaud parce que j'avais 18 au bac. J'ai 6,5, je me rappelle de ma note au premier DS. Donc ça se passe pas très bien. Faut savoir aussi d'ailleurs que personne a 18 hein, sur les premiers DS, surtout pas en philo. En philo, une bonne note, c'est quand t'as 15 ou 16, t'es... je cherche un nom de philosophe. Pff, la blague est niquée, j'allais dire Descartes. Ça marche pas. Bon, donc voilà, t'es vraiment très très bon. Et dans les langues, alors heureusement j'avais l'avantage en anglais qui fait que j'ai su me débrouiller sur toutes les épreuves, mais en LV2 là ça a commencé à être très très dur parce que les langues en prépa c'est pas des questions mythes et légendes comme t'as au bac là, je sais pas quoi, tu fais des rédactions mon cul, c'est du thème et de la version. Le thème c'est quand tu dois traduire, je sais plus dans quel sens c'est à chaque fois, mais en fait tu dois traduire du français à la langue, donc français à l'espagnol, alors de l'espagnol au français dans le langage le plus exact possible. Et je vous jure, c'est trop dur. C'est super dur et c'est un exercice qui est hyper différent. Et je vous jure qu'il y a des bilingues. Hein. Il y a des bilingues qui n'arrivent pas à faire cet exercice. Parce que c'est extrêmement dur. Tu sais comprendre, tu sais parler, mais est-ce que tu sais traduire? En fait, c'est l'épreuve DeepL. Ça n'existait pas à l'époque. Mais c'est super chaud. Et donc voilà, donc je me mange un truc entre 6 et 8 hein, au premier d'espagnol, mais là pour le coup j'avais pas énormément d'attente de moi, je savais que ça, j'allais me le traîner quelques temps, et puis de toute façon le coefficient au concours est quand même le plus faible, donc j'allais le taffer, mais tranquille. Et donc ça c'est un des premiers enseignements de la prépa, c'est que très rapidement ils font en sorte que dans les premières semaines tu comprennes que t'es une merde en fait, que t'es une sombre merde et que tu ne vaux rien si tu travailles pas, et que tu vas devoir travailler. Et ça permet de justifier le travail. Et tu te rends compte qu'en fait, ça marche. Quand tu veux faire passer un message, ça marche partout. Je pense à la vente, notamment. Avant de balancer une solution, donc en gros, une prescription, qui est ta solution de vente, il faut faire comprendre à la personne qu'elle a un problème. Et une personne qui n'a pas vu qu'elle était nulle à un DS de maths, qui n'a jamais rien compris, elle ne va pas t'écouter en cours derrière. Tandis que moi, quand j'ai fait 39e sur 42, j'ai eu genre 4 sur 20, un truc comme ça. Et bah quand, quand le professeur il explique un truc, je ferme ma gueule et je dis chute aux autres. Et ensuite, je travaille. Et ça marche très, très bien. De comprendre un petit peu, d'être très honnête sur le point de départ. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne sont pas honnêtes sur le point de départ. Ça veut dire qu'ils surestiment. Ils disent « Ah non, moi, je ne suis pas nul, etc. » Et ça, je le vois beaucoup sur le sport. Parce que je me suis beaucoup menti à titre personnel. Je n'ai pas été très assidu sur le sport l'année dernière. Disons avant de me reprendre, là, il y a 3-4 mois. Et je me disais toujours « Non, mais je suis sportif, tranquille. Non, mais je ne suis pas comme... Je suis pas sédentaire. Je fais une séance de sport. Avant, j'en faisais plus. Enfin, ça va. » Et en fait, tu ne peux pas progresser si tu n'acceptes pas le point de départ. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas là où tu veux être. Et en fait, les profs, ils t'aident à le faire. Voilà, donc ça, c'est les premiers instants. Ensuite, maintenant, à quoi ça ressemble une semaine type en prépa? Parce que du coup, tu passes une année à bosser. Et en fait, tu travailles toutes les heures de la journée. Les seules heures que tu ne travailles pas, c'est le sommeil. Tu dors 8 heures, mais toutes les autres heures, tu les passes à travailler. Tu fais peut-être une soirée le samedi au début de l'année, de temps en temps. Mais tu te rends compte en fait que c'est chaud, que tu fais que travailler souvent le jour de ton anniversaire, parce que mathématiquement il y a 2 années Donc deux anniversaires, moi c'était en octobre, donc j'ai bien passé deux anniversaires pleins là-bas. J'ai passé mes journées d'anniversaire, donc je souffle les bougies au déjeuner, 30 minutes, et après, hop, je vais faire des maths. Et c'est là où tu te rends quand même, je suis en train de faire un sacrifice là. Tu vois tous tes potes en train de, en vacances, etc. Et ça fout le seum. Faut pas regarder les stories quand t'es en prépa, parce que je te jure, ça fout trop le seum. Tous tes potes qui sont en fac. Ouais, là tu faut pas, c'est vraiment très très dur. Donc en gros, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, c'est pas, personne en prépa demande est-ce que tu travailles beaucoup. Ce qu'on fait beaucoup d'ailleurs dans le monde professionnel, on veut dire tu travailles dur, tu travailles beaucoup, tu travailles jusqu'à quelle heure, etc. Non, en prépa tu travailles toutes les heures de la journée. Soit tu travailles à la prépa, soit tu travailles chez toi sur les sujets de prépa. Donc il y a pas cette question là. Mais à la fois, je vous jure, et c'est un peu compliqué à comprendre, c'est pas difficile de travailler en soi. C'est difficile de bien travailler, mais c'est pas difficile de passer les heures à bosser. Parce que t'es dans un environnement où tout le monde fait ça. Et c'est la norme. Et donc ça, c'est ça qui est génial. Et j'aime beaucoup, il y a le fondateur de, je crois que j'en ai déjà parlé dans les podcasts, le fondateur de Netflix, là, Reed Hastings, qui explique que il parle de la densité de talent pour décrire des boîtes qui fonctionnent bien et qu'en fait, quand tu mets plein de bons talents entre eux, ils se tirent vers le haut et si tu fais que t'en mettes un mauvais, ça tire tout le monde vers le bas. Donc il suffit d'avoir un branleur, par exemple, en prépa, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il les évince très très vite, pour que ça tire tout le monde vers le bas. Et en fait, quand t'as que des gens excellents, enfin que des gens qui font que travailler, bah ça normalise l'effort. Tu dis, bah c'est la norme, tout le monde fait ça, bon, moi je fais ça, mais c'est pas dur. Et tu te rends compte que tu peux accepter énormément de choses en fait, en te mettant dans un environnement qui l'a normalisé. Donc si demain tu veux faire 10 séances de sport par semaine, ce qui semble impossible, et bah tu vas traîner avec des combattants MMA par exemple. Combattants MMA, ça s'entraîne deux fois par jour. Et bah là-bas, comme tu t'entraînes, et je l'ai fait en Australie par exemple, moi je devais préparer un combat de boxe que j'ai fini par pas faire, et je venais une fois tous les deux jours, je m'entraînais bien, du coup ça fait 4, voilà. Je faisais 4-5 séances par semaine, et à un moment le coach il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de séances par jour? Et ben c'est juste que je m'étais pas posé la question, et je venais, et j'étais que avec des gens qui faisaient deux séances par jour, et je faisais que boxer, et ça se passait très bien. Parce que parfois il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui t'ouvre une case, ou que t'aies le bon environnement qui te permette de dire, ouais, moi en fait c'est possible. C'est-à-dire ça, un des gros atouts d'HEC, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc bref, les profs aussi, ils sont pas là pour te brosser. Ça veut dire que être gentil, ils le font s'ils veulent, mais ils sont pas obligés, c'est pas dans le contrat. Et donc ils te préparent au concours en fait. Et donc ils savent très bien, franchement ça devrait être la maxime d'ailleurs de la prépa, c'est que plus tu t'entraînes dur, plus le match il est facile. Et ça, ils le savent très bien. C'est pour ça que c'est pas tous des fils de pute, surtout à Grand Champ, c'était connu pour être des profs sympas. Il y a une prépa avec une bonne ambiance, un peu familiale. Mais ils savent quand même que va falloir t'activer, tu vois. Je suis pas obligé d'être gentil avec toi. Sache que je te fais une fleur en étant gentil. Mais dans tous les cas, je vais t'imposer le niveau. Enfin, je vais t'imposer le haut niveau, quoi. Tu veux gagner la Champions League, ok. Bah, tu vas t'entraîner comme quelqu'un qui gagne la Champions League. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que je trouve que c'est une mentalité qui s'est perdue. Ce truc-là dans le monde professionnel, pas mal. J'ai l'impression qu'on veut beaucoup protéger les gens et pas les mettre en face en fait de des contraintes qu'ils doivent s'imposer pour atteindre le très haut niveau. Et donc ça crée parfois une c'est un truc d'ailleurs que cette personne-là qui a commenté sur mon post LinkedIn n'avait pas compris. Je trouve que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas dire je travaille pas et je veux avoir HEC. Et ça m'embête parce qu'il y a plein de gens, et c'est en fait c'est ça le gros problème finalement dans ce que disait cette personne-là pour ceux qui l'ont vu. Et ne vous inquiétez pas, je vous le lirai dans l'épisode d'après, je dirai pourquoi est-ce que c'est fallacieux le raisonnement. Mais c'est ça le problème. C'est que si tu veux avoir le top du top, il faut t'entraîner comme le top du top. Et en fait ces profs-là, ils ont la double casquette. C'est-à-dire qu'ils sont très très durs avec toi, mais tu sais très bien qu'ils sont là pour te faire progresser. Et c'est ça qui te fait les aimer, malgré tout. Parce que en fait, ils défendent ton intérêt le plus profond, ils savent pourquoi. Enfin, toi, tu sais pourquoi t'es là pour gagner le concours, et donc avoir la meilleure école possible. Et c'est tes meilleurs alliés dedans. Et ils savent très bien que dans le contrat que tu passes avec eux, il n'y a pas besoin d'être gentil. Et toi, tu t'en fous. Et c'est pour ça que les gens sont cons, en fait, en prépa. Les gens qui disent les profs sont durs en prépa, bah, ok, tant mieux, mais ça fait sortir les faibles, c'est tout. C'est un test mental. Si t'es pas prêt à assumer ça, ok, c'est pas grave, va faire autre chose. C'est le chemin qui est nécessaire pour cette voie-là. Et donc ça, c'est un petit peu en fait la mentalité prépa, c'est un peu ma philosophie de l'entreprise. C'est que les gens n'ont pas besoin que tu les dorlotes, de les mettre dans un confort, etc., etc. Ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de sens et que tu les aides à accomplir leurs objectifs personnels. Et je fais en sorte que dans ma boîte, donc chez Kodak, il n'y ait que des gens qui aient des gros objectifs très ambitieux. Et donc moi je fais en sorte voilà, de leur donner ce dont ils ont besoin pour atteindre cet objectif-là. Donc parfois ça implique d'être dur, mais ils savent que moi, je suis là pour les faire progresser et que le jour où eux, ils se font attaquer par quelqu'un, je serai le premier à venir les défendre. Et c'est, du coup, pour moi, c'est comme la relation d'un parent à un enfant. C'est que, en fait, t'es bien content que tes parents, ils t'aient dit « fume pas ». Moi, je suis très content qu'ils m'aient vraiment bien inculqué ce genre de valeur-là et que j'ai jamais commencé à fumer parce que je vois aujourd'hui comment ça aurait été une galère et comment ça m'a niqué surtout sur la santé, etc. Bref, quand ils t'empêchent de jouer à la console, qu'ils disent d'arrêter, que ça te fait chier quand t'es gosse. Mais plus tard, tu comprends ce qu'ils voulaient faire. Bah, c'est cette vocation-là. Je prétends pas être le parent de mes employés hein, du tout, mais j'ai envie de les aider à accomplir ce qu'ils veulent apprendre. Et parfois, mais forcément, ça passe par de l'inconfort. Voilà. Semaine de 4 jours. Voilà. Bref, donc ensuite, à l'échelle de la semaine, ça fait combien de temps là qu'on enregistre ? Putain, 30 minutes. Oh là 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 là, ça va être un enfer cet épisode. Il me reste trop de trucs. Est-ce que je vais le faire en deux parties ? Il est 23h20. Je me réveille tôt demain, je vais courir. Alors, bon. Où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en étais ? J'en étais au col. Donc chaque semaine, tu as entre une et trois cols. Une col, c'est quoi ? C'est une simulation d'oral, c'est par petits groupes de trois, qui est par matière, dans lequel on te file un sujet, tu le prépares dans 30 minutes, et ensuite tu le récites au tableau, et tu n'es pas corrigé tout le temps par ton professeur, ce qui fait une énorme différence. Et c'est là où les plus belles PLS s'infligent. C'est là où tu te fais mettre KO devant plusieurs personnes, parce que tu as un petit groupe de trois. Et petite note au passage, mon associé Paul Maher, c'est comme ça que je l'ai rencontré, hein, il était dans mon groupe de colle en prépa. Donc il m'a vu me prendre des PLS en maths, et je l'ai vu aussi se faire humilier. Et en maths, tu te fais humilier, mais souvent, tu te fais plus humilier en philo, en histoire. Et après, je dis ça, non, c'est pas vrai. En vrai, honnêtement, c'est pas vrai, parce que les maths, tu peux galérer. En fait, souvent, t'arrives et t'as pas réussi l'exercice, et le prof, il essaie de te faire te dépatouiller en t'humiliant, quoi. Genre, donc, vous connaissez pas ça, vous connaissez pas votre théorème? Non. Non, mais ça, c'est trivial, ça. Ça, c'est très, très simple, ça. Ah, vous? D'accord. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là, 6. c'est pas une blague, hein. Je pense que c'est un vrai script de colle qui a dû se produire des centaines de fois. Bref, t'as 30 minutes pour préparer. Et tu te manges des sujets, je me souviens d'un sujet, bon là c'était en seconde année, hein, c'était pour préparer les oraux d'HEC. En histoire, le sujet c'était le parking. Et donc là t'as 30 minutes, et tu sais tu retournes la feuille, mais elle est où la question ? Non, le parking. Tu vas devoir me faire un petit exposé de 15 minutes après là. T'as 30 minutes pour préparer 15 minutes, en 10 ou 15 minutes, je sais plus. C'est atroce. Et donc là par exemple, après t'apprends des façons de décoder ces sujets. Quand t'es en géopolitique, par exemple le parking c'est quoi ? Peut partir dans plusieurs sens. Bah, écoute, c'est le truc qu'il y a devant les centres commerciaux, c'est la marque de la société de consommation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait le parking ? Ok, bon bah il y a la consommation dans les. Vous voyez, je suis plus très rodé dans les supermarchés, etc. Bon bref, ça commence à réorganiser les puissances. Les gens, ils se baladent en automobile. Les grandes entreprises qui sont venues avec ça. Bref, tu peux trouver des trucs pour dire dans quel contexte le parking s'inclut. Mais on t'apprend de toute façon ça après à traiter des sujets comme ça. Bon bref, et donc la colle en fait très simplement c'est un exercice de résistance au stress. Mais genre, c'est un niveau très très haut. C'est... honnêtement, les gens qui n'ont jamais vécu de colle, vous pouvez pas faire la compétition avec des gens qui en ont fait 100 dans leur vie. C'est pas possible. À moins qu'ils aient oublié. Et donc, ça fait que quand t'arrives aux oraux d'école, t'es préparé. T'es vraiment préparé. Et ça, c'est un truc aussi qui est... Bref, enfin, vous avez compris, c'est exactement la même idée, je vais pas me réétendre. Plus t'es résistant au stress, plus t'accomplis des trucs qui sont plus stylés, parce que tu fais voilà, simplement parce que le fait que t'es encore là quand le stress dure, bah les autres gens ils sont partis. Donc s'entraîner. Voilà, bref. La dernière chose d'une semaine type, c'est le lundi donc tu as les DST, donc tu poses ton cul 8 heures sur une chaise, tu te fais retirer le cul 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Alors croyez-moi que dans ces salles de devoirs, il n'y a pas une seule personne qui rend sa copie en avance. Ça c'est un truc de terminal qui veut faire le mec. Je me souviens juste une fois, d'ailleurs c'est Paul, mon associé, qui avait renoncé à un DS de maths. En fait, on le voyait cogiter un petit peu sur sa feuille, et c'est 4 heures en DS de maths. Et je crois qu'au bout d'une heure et demie, il était parti parce qu'il avait dû pas réussir une question. Et je vois très bien, en fait en prépa, t'as souvent des craquages mentaux. C'est pas que tu peux plus bosser, c'est que ton cerveau il renonce. T'as tellement... n'importe quelle personne qui a fait une prépa, ça arrive pas toujours pendant un DST, ça arrive peut-être aussi parfois tout seul chez soi. Moi, c'était plutôt ça. Où tu te dis, mais je vais jamais y arriver, en fait. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est pas que tu rates pas un DS de maths quand t'es en train de rater une question. Tu rates ta vie, en fait. Tu te dis, mais ça, c'est un énoncé d'HEC. Je passe à HEC dans 3 semaines. Mais c'est pas possible. Et c'est le pire, c'est quand c'est des énoncés d'école que tu penses dominer, entre guillemets, quoi. Tu te dis, bon, je dois me préparer, a priori, je peux avoir les decks, etc. Et tu te fais rôtir sur une annale des decks. Et là, tu te dis, et tu re-questionnes toute ta vie. Donc, bref. Voilà la semaine type. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu commences à être un peu réglé dans ton rythme, tu as rapidement les premiers classements qui arrivent. Donc là, pour la première fois, tu découvres un petit peu ce que tu vaux. Et comme le concours est un classement, tu prends les meilleurs, ils vont dans la première, ensuite c'est le badge d'après dans la seconde, etc. C'est pas comme les écoles d'ingénieurs hein, où il y a des thèmes. Tu peux aller plutôt dans l'école aéronautique, chimie, etc. Là, c'est vraiment le classement du coup qui s'appelle CIGEM. C'est dans l'ordre. Il n'y a pas grand monde qui fait des trucs originaux. Donc, tu sais, globalement, dans la prépa Notre-Dame-du-Grand-Champ à l'époque, que la première moitié va dans une parisienne. Donc, parisienne, c'est ESCP, ESSEC, HEC. Et tu as quasiment tout le monde, 90%, qui va dans le top 6. Donc, ce qui fait que tu as aussi dans un coin de ta tête que tu peux faire partie de des 10% qui ne vont pas dans le top 6. Le top 6, nous, à l'époque, je crois que c'est un peu changé maintenant, peut-être l'ordre, mais c'est globalement tout le temps les mêmes, c'était EM Lyon et EDEC Odensia. Donc, tu fais ton premier concours blanc, et là, tu commences un peu à te faire des films. Toi, tu te dis, moi, je me souviens, j'avais été pas trop mal classé au premier concours blanc. J'étais pas bon, mais j'étais à la limite, je me souviens que ça valait ESCP, quoi. Donc, je me dis, franchement, quand tu peux avoir le ESCP, tu sais, je m'appelle très bien le moment où je prenais des pauses dans mon travail, dans ma chambre, dans l'ancienne maison à Versailles. J'avais une petite chambre au fond du jardin, en fait, dans laquelle j'ai passé toute ma prépa. Et du coup, je sortais pas, je faisais que t'as fait là-dedans. Et je faisais des petites pauses, je prenais ma douche, après, je regarde dans le miroir, je fais, imagine, Théo, je suis un ESCP. Et en fait, tu te dis, tu deviens fou, en fait. Tu deviens fou pendant la prépa. C'est tellement inconcevable pour toi qu'il y ait n'importe quoi après que tu te dis attends mais peut-être comment ça sera stylé quand je pourrais dire je serai ESCP. Et je vous jure je me faisais des rêves comme ça, c'était mes rêves les plus fous. Donc les concours blancs en fait voilà, t'as les résultats qui sont affichés dans le hall hein, devant tout le monde, donc tout le monde voit si tu t'es fait retirer et tu découvres un petit peu ce que tu vaux. Mais évidemment il y en a pas mal les concours blancs, je crois qu'il y en a 5 d'ailleurs sur les 2 années. Donc le premier ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai fait que dégringoler. Hein. Donc, là, moi, j'ai pas fait des grosses perfs. Et ce qui est stylé, c'est que tu es aussi ranké par rapport à toutes les autres sections. Donc tu as ECS, mais tu as aussi ECE et ECT, qui sont donc les prépas commerce, mais en venant de S et de STMG. Parce que oui, il y a des STMG qui intègrent HEC. Et y a, enfin, voilà, d'ailleurs, Grand-Champ, je crois qu'il est la meilleure prépa de France, du moins à l'époque, sur les STMG qui intègrent HEC. J'ai un de mes meilleurs potes d'HEC avec qui je me suis retrouvé du coup on dit codouche à HEC, qui venait de cette voie-là, qui est un bon... je pourrais faire un épisode sur lui en entier, Jean, si tu écoutes, qui n'avait pas le brevet. Il l'a révélé. C'est un profil hyper unique. Il faudrait que je fasse un épisode sur lui, d'ailleurs, Jean, si tu écoutes. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces classements, il y a toujours un premier et un dernier. Et... En fait, c'est un peu l'état naturel des choses. Je suis désolé, mais quand tu as un objectif à atteindre et qu'il n'y a que les premiers qui sont pris, bon, bah écoute, il y en a qui sont mieux placés que d'autres, c'est tout. Surtout quand le truc, il est délimité. C'est comme une Coupe du Monde, il y a celui qui gagne et celui qui perd. C'est tout. Et je trouve qu'on refuse cet état de fait dans la sphère professionnelle. Et principalement, bon, quand je dis sphère professionnelle, en fait, dites-vous que je pense à LinkedIn. Moi, c'est le mindset LinkedIn. Je trouve que en fait, ne pas être d'accord avec ce postulat-là, de dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, ce qui en fait, c'est dingue que ce soit une opinion impopulaire, ce truc-là. Pour moi, c'est avouer tout seul que tu refuses. Enfin, disons que c'est une condition que tu ne remplis pas pour être performant. En fait, tu peux pas. Si t'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait des premiers et des derniers, tu peux pas en fait être d'accord avec le fait avec la performance tout court. C'est-à-dire qu'il y a pas de gens performants et de gens pas performants. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et donc, c'est un problème de base. C'est-à-dire que tant que tu n'acceptes pas une certaine hiérarchie pour une discipline donnée, et les trous du cul, c'est ceux qui pensent qu'il y a une hiérarchie absolue, parce que vous voyez un petit peu toutes les dérives auxquelles ça peut mener, eh bien, voilà, tu ne peux pas avoir de performance associée. Donc, n'oubliez pas que, voilà, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres à des trucs, et il faut arrêter d'essayer de faire genre tout le monde, il est beau, et bisounours, etc. C'est tout, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et si ton ego n'est pas prêt à le faire, c'est ton problème à toi. Donc c'est aussi à ce moment-là, du coup, avec les premiers rankings, qu'il y a les premiers abandons, soit pour attitude, soit pour résultat. Donc des gens qui partent ou des gens qui sont un peu poussés vers la sortie. Voilà, il n'y en a pas eu énormément en mon année, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Et donc moi, je comprends rapidement que je peux pas viser HEC, que je l'aurais pas, que j'ai pas le niveau des gens qui sont dans la classe et qui ont HEC, ils sont beaucoup plus forts que moi. Et à l'époque, moi, j'avais affiché HEC sur mon bureau, au-dessus de mon bureau pour me motiver. J'ai rapidement remplacé par l'ESSEC. C'est une vraie histoire. Donc je voulais avoir l'ESSEC et paradoxalement, vous allez voir que c'est la seule école à laquelle j'ai pas été admis. J'ai toutes les autres sauf celle-là. Donc je me suis... Heureusement que j'ai changé, parce que si ça avait fait ça sur HEC, ça m'aurait fait un peu plus chier. Donc, le mot de la fin sur la première année. Donc la première année en prépa, c'est une année générale. En fait, je termine cette première année avec un sentiment assez... mitigé, c'est-à-dire que je sais que je suis milieu de classe. Donc sur un bon jour, je peux avoir le CP. C'est ça que ça veut dire, très simplement. Et donc je suis pas mécontent, mais ça va. Je suis content, mais j'ai renoncé. En fait, j'ai tiré un trait concrètement sur HEC et l'ESSEC. J'ai mis l'ESSEC quand même pour être ambitieux, pour viser un peu plus haut que ce que je valais. Normal, ça sert à rien, un objectif. N'en déplaise à voilà, hein, tous ces gens. voilà, qu'est-ce que je disais ? Tuk-tuk-tuk, je suis mis de classe, donc bref. Pendant la première année, qu'est-ce qui se passe aussi ? Je ne sais plus si ça existe toujours encore à Grandchamp, mais il y avait un truc super qui reste un de mes meilleurs souvenirs de vacances, honnêtement. Probablement parce qu'il est entrecoupé de grosses périodes de travail, c'est la semaine ski, où tu pars quand même 5-6 jours avec toute la prépa. Skier et boire. Très simplement, c'est un peu un avant-goût de l'école de commerce. Et c'est excellent parce que c'est un énorme contraste avec ta vie de tous les jours. Donc voilà, ce truc-là, je recommande aussi. Si vous avez des prépas qui le font, c'est un vrai avantage, ce truc. Ça fait une pause, mais monumentale. T'as l'impression d'être dans un autre monde pendant une semaine. C'est génial. Et donc, cette première année, en fait, au global, c'est là où tu découvres le travail dur. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça crée une camaraderie de ouf. Et ça permet de comprendre. C'est un truc que j'avais compris aussi pendant le stage militaire là, d'HEC. Bah, donc, je reparlerai. Je parle beaucoup d'HEC. Hein. Mais je vous ferai une démonstration complète hein, de mon expérience là-bas. En fait, l'esprit d'équipe, ça se forge dans l'effort. Ça se forge dans la difficulté et pas dans le plaisir. En fait, en prépa, tu vois les gens se faire manquer de respect régulièrement devant tout le monde, donc se faire humilier. C'est-à-dire, devant une classe de 40 personnes, tu te fais rôtir, devant rien que ton équipe de colle, 3 personnes, c'est hyper douloureux. Je me souviens mais de trucs. Mais... Parce que parfois, les mini-choses, en fait, quand tu as dédié toute ta vie à un objectif et qu'on t'explique avec une petite remarque, parfois 3 mots, que bah, tu n'es pas à la hauteur et qu'a priori, tu vas pas avoir ton objectif, il va falloir que je boive de l'eau là bientôt, parce que ça commence à dérailler un petit peu. Eh bien, c'est très très dur. Je me souviens d'une scène où on avait passé le premier concours blanc et putain, Jean, si tu te regardes, bon, c'est pas le même Jean qu'avant, mais c'est un autre Jean. On était en groupe dans la cour et là il y a le prof de maths qui passe. Donc c'est comme tu fais une pause, donc il y a tout le groupe qui est là et les gens sont posés. Tu parles pas du tout de maths. Il passe et il dit à Jean un peu doucement, mais tout en sachant que tout le monde entend. J'ai vu votre devoir, c'est pas fameux. Et il se casse. Et ça peut vous sembler rien du tout. Mais c'était un concours blanc, du coup. Donc, épreuve de compte. C'est-à-dire le truc sur lequel tu juges un petit peu ton avenir, quoi. Il a dit devant tout le monde. Donc, le mec, il connaît pas son classement, il connaît pas sa note. Hein. Et il va recevoir probablement son devoir dans 48 heures. Il avait même pas la même journée. Donc, pendant 48 heures, il se dit, je vais me prendre une claque. C'est de la torture psychologique, ça. C'est de la torture. Mais ça renforce. C'est des mini-trucs, mais ils savent très bien. De toute façon, c'est des profs qui ont énormément d'expérience et qui font des trucs pour te renforcer. Voilà, et puis bon, donc pendant cette première année, tu vis les premiers craquages, surtout l'hiver. Le plus dur, c'est vraiment l'hiver. Hein. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi à 23h et qu'il fait nuit, tu repars le lendemain en prépa, il fait nuit, et là tu te dis, il y a vraiment intérêt à ce que ça marche ce que je suis en train de faire. Donc je suis les deux pieds dedans, autant le faire bien. Et donc aujourd'hui, avec toutes ces personnes-là avec lesquelles j'ai vécu ces épreuves un peu, donc les 40 personnes de cette classe, j'ai perdu le lien avec la majorité d'entre eux, hein, il faut être honnête. Probablement parce qu'on ne partage plus beaucoup de trucs aujourd'hui. Mais c'est des gens, si je les recroise, en fait, quoi qu'il arrive, tu partages un trauma commun. Donc on a un bagage commun qui fait que je pense que même si je ne les ai pas vus depuis 5-6 ans, on aura des trucs à se dire. Et je ne sais pas si vous avez certainement des amis comme ça, avec lesquels vous avez partagé tellement de choses, que vous savez que vous les revoyez demain, ce n'est pas bizarre. Ils ne vont pas vous dire ah, putain, tu ne peux pas envoyer de message. Ouais, bon, ils comprennent que voilà, vous êtes devenus un peu des personnes différentes. Mais. Il y a un background commun et honnêtement, j'ai pas retrouvé quelque chose comme ça d'un point de vue intensité. Et en fait, ça accélère le temps, la prépa, c'est ça. Simplement, t'es dans la salle du temps, ça accélère la camaraderie. En fait, tu vis en 2 ans des amitiés qui, je pense, en fait, ça vaut 10 ans à l'échelle normale. Et c'est pour ça que les militaires ont les plus gros esprits d'équipe. C'est vraiment les amitiés entre militaires, c'est des choses que tu peux pas comparer aux amitiés civiles. C'est des gens, quand tu pars en mission avec quelqu'un pendant 2 semaines, en fait, c'est comme si c'est l'équivalent de 3 ans d'amitié. Tout ce que tu as partagé avec quelqu'un. Donc voilà, les gens le savent, hein, les amitiés les plus fortes se forgent dans la difficulté. Donc en prépa, pendant cette première année, tu apprends à travailler, tu as une quantité limitée de temps, tu dois prioriser, parce que tout le monde travaille beaucoup, donc tu ne peux pas jouer sur « je travaille une heure de plus que les autres ». Ce que tu peux faire d'ailleurs dans le monde corporate, c'est génial hein, d'ailleurs, c'est trop facile en fait de gagner. Il suffit juste de rajouter une heure quand les gens rentrent chez eux, même pas besoin de prioriser, donc c'est génial. Et pour moi, c'est ça en fait le vrai avantage des gens qui ont fait une prépa, c'est qu'ils savent depuis leurs 18 ans en fait comment prioriser des tâches. Ils ont eu une première expérience d'avoir plus de choses qu'on leur demandait de faire que de temps disponible dans leur journée avant d'être en entreprise. Voilà. Et donc, tu apprends aussi voilà, à maîtriser, à louer tes efforts aux bons endroits selon l'école des matières, selon où tu es fort. Donc, moi, par exemple, j'étais chez l'anglais, je vous le disais, pour bosser les maths, ce qui a été un choix gagnant avec le recul. Donc, il faut apprendre un peu à tracer sa propre voie aussi. Et aussi, tu découvres, dernière chose, dans quelle zone d'inconfort est-ce que tu progresses. Parce que je vous parle de faire des trucs durs, etc. Je trouve ça ridicule par la métaphore de tu prends quelqu'un qui ne sait pas nager, tu le jettes dans l'eau et tu dis vas-y, nage. Ça ne marche pas. Et là, tu comprends en fait que la zone de progression de quelqu'un, elle est toujours entre 10 et 20% au-dessus de ce que tu sais faire. C'est là où tu progresses vraiment. Et ça, tu le vois dans les annales de maths quand tu bosses. Donc, les annales de maths, c'est des sujets qui ont déjà été donnés au concours et que tu fais pour t'entraîner, pour savoir un petit peu quel est le genre de structure d'énoncé, etc. Tu sais que tu n'auras pas les mêmes questions, mais c'est un bon entraînement. Et donc, évidemment, comme tu es dans une prépa qui vise les parisiennes, et c'est pas les mêmes épreuves de maths selon les écoles. Il y en a certaines qui sont partagées, mais donc du coup, forcément, l'épreuve de maths d'HEC est plus dure que celle de l'EM Lyon, que celle de l'EDEC, etc. Et forcément, comme tu es dans une prépa qui vise ce genre d'école-là, tu te dis, bah non, mais je vais faire les annales de SCP, je vais faire les annales d'HEC. Et sauf que les annales que tu fais, elles sont faites pour être présentées à quelqu'un qui a 2 ans de prépa dans les bras. Donc, c'est extrêmement dur, en fait, de les réussir, celles-là. Et c'est tellement au-dessus de ce que tu sais faire, c'est pas dans les 10-20% au-dessus, que ça sert à rien. Et donc, les gens les plus smart, et moi, ça, c'est un truc que j'ai compris pendant ma période de révision, c'est les gens qui commencent tranquille. Et donc, franchement, à la fin de la première année, tu peux commencer à faire des annales des decks, à pouvoir te débrouiller, réussir quelques questions. Tu les fais bien, ensuite, tu passes à l'EM. Enfin, EDEC-EM, c'était un niveau sensiblement similaire de difficulté. Et ensuite, tu passes au maths 2. En fait, t'as le maths 1 et maths 2, mais bon, je vous épargne les détails. La maths 1, c'est l'épreuve partagée par HEC, ESCP et Grenoble, je crois. Mais c'est l'épreuve la plus dure. On va en reparler, hein, de façon de ce que ça veut dire qu'une épreuve soit discriminante. Donc, tu termines ta première année avec tous ces apprentissages-là. À la fin, ils t'emmènent voir les oraux d'HEC. C'est un petit peu comme une classe verte. Tu vas voir les gens qui se font monter en l'air. Alors, pourquoi est-ce que on va voir les oraux? C'est parce qu'il y a du public pendant les oraux d'HEC. Donc, tu vois les gens se faire exploser le cul devant tout le monde. En public, hein. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée. C'est un peu comme dans une arène, un gladiateur. Et tu vois des gens mourir au combat, hein, clairement. Aucune pitié. Je peux te dire que les examinateurs d'HEC, c'est ton prof de colle en pire. Et en fait, le mec, il a pas le temps. Il fait passer 40 000 euros par jour. Donc, soit tu fais un truc bien, soit il t'encule. Il te pose 3-4 questions, tu suis, sinon non. Okay, bon, tu prends ton 6 et tu te casses. Donc, il y a de la beauté là-dedans. C'est très, très objectif. Donc, à la fin de cette première année, je capte que sur une bonne paire, je peux avoir le SCP. Je prends une petite gorgée d'eau et je passe à la seconde année. On en a combien de temps? 47 minutes. Bon, les amis, on part sur un épisode d'une heure et demie, hein, clairement. Donc, allez vous servir un petit truc à boire. Moi, j'ai plus beaucoup d'eau. Hop là, les petits bruits de glotte, vous connaissez, c'est la marque de fabrique de ce podcast. Alors, la deuxième année. Bon, là, tu arrives en deuxième année, on est en septembre. Tu sais que en avril-mai, tu vas te manger le concours. Donc, ça rigole vraiment plus du tout. Donc déjà, la première chose que tu apprends, c'est ton thème de culture générale, parce que c'est plus de la culture générale, maintenant c'est un thème en particulier, c'est toujours comme ça chaque année. Donc moi, mon thème, c'était la nature. Vous voyez, ce genre de merde qui veut tout et rien dire, la nature humaine, la nature, l'environnement, etc. Bref. Et donc, en fait, c'est un prétexte pour te faire sabrer, quoi. Tu vas te faire sabrer par des sujets, je vous le dirai juste après dans la partie concours, les sujets que j'ai eus à HEC. C'est un enfer. C'est un enfer. La nature, tu peux la retourner dans tous les sens. c'est horrible. Et donc, tu découvres aussi en même temps, quand tu arrives en seconde année, les cubes. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient au concours et donc qui ont choisi de refaire une année. Ces gens-là, ils te brûlent dans toutes les matières parce qu'ils ont déjà fait le programme, même s'ils n'étaient pas excellents la seconde année. Et tu comprends qu'il y a de l'écart entre toi et eux. D'ailleurs, petite remarque au passage, tant qu'on y est sur la notion de cube, je trouve que c'est la meilleure solution de cuber, vraiment. Parce que déjà, personne ne se rappelle quand tu as eu ton école que tu as fait 3 ans en prépa. Et ensuite, tu t'es déjà fait chier 2 ans. Écoute, si tu n'es vraiment pas content de l'école que tu as eue, je pense que si tu as l'opportunité d'avoir ESCP, ESSEC et HEC, ça fait quand même des énormes différences et ça te suit toute ta vie. Ça, c'est des choses très... Ouais, pour moi, c'est un no-brainer. Si tu n'as pas eu ce que tu veux, tu te refais une année, quoi, très simplement. Plutôt que d'avoir... Sinon, tu as vraiment gâché 2 ans. Alors que tu peux, tu as l'occasion de devenir excellent. Bref, vous avez compris, quoi. Si vous êtes un cube, si vous hésitez à cuber, cuber. On est en août, donc normalement, vous avez déjà pris la décision si vous êtes un jeune préparationnaire. Bref, mon niveau, pendant la deuxième année, il ne change pas du tout. Même il se dégrade un petit peu. Je passe en dessous un petit peu de la barre de ce qui est possible pour avoir le SCP. Je me débrouille, mais je ne suis, pas brillant, quoi. Donc cette année, en fait, elle passe très très vite. Et tu te retrouves, et j'ai pas d'éléments notables parce que tu fais vraiment que travailler. Tu te manges anal sur anal. Que des oraux. Enfin, bref, c'est très très dur. Et là, pour le, parce que en fait, t'as un compteur avant les concours. Tu comptes les jours. Tout le monde compte les jours. C'est comme ça. Donc ça te met un petit peu le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc tu arrives très très rapidement à la semaine de révision. Tu te fais lâcher par tes professeurs. Tu as 10 jours, 10-15 jours pour réviser. Et donc nous, on avait un prof à HEC, en prépa. Il s'appelait Monsieur Lopi, qui avait la réputation de connaître le sujet du concours. Et parfois, de le donner un petit peu de façon détournée. L'année précédente, bon, moi c'était la nature, mais du coup les cubes avaient planché sur le sujet le crépuscule de la vérité. Leur thème, c'était la vérité. Donc laisse tomber, hein. Le crépuscule de la vérité, vous avez 4 heures. C'est pas un sketch. Hein. Donc, toute une promo d'HEC a été jugée sur ça en culture générale. C'est la promo qui a intégré en 2013. en 2015, pardon. Où est-ce que j'en étais ? Crépuscule de la vérité. Bon, bah là, évidemment, ce bâtard, il nous a rien filé. Donc, parce qu'en fait, ça crée un truc très marrant de toute la classe qui écoute. Comme ça, en mode, ouais, là, il vient de dire un truc. Il a dit le crépuscule de la nature. Vous pensez que ça va être le crépuscule de la nature, mais on est déjà le crépuscule de la vérité qui est tombé l'année dernière. Et tu psychotes, en fait. Parce que quelqu'un qui connaît le sujet, et c'est en fait, il y a des trucs qui sont connus aussi, c'est que Louis le Grand et Henri IV, ouais, ça fricote entre les profs et HEC. Donc ça divulgue. Et je crois que, en fait, justement, Frédéric Lopi était enseigné aussi dans un autre établissement. Et en fait, à cette époque-là, tu t'en fous. Je crois peut-être qu'il enseignait à l'intégrale ou un truc comme ça. Une prépa payante, là. Donc, cette année passe très vite. Je vous ai pas parlé. Ouais, une petite anecdote marrante. C'est-à-dire que j'ai un peu choisi d'élargir mon champ de vision, avoir d'autres façons de bosser pendant cette seconde année. Donc, j'ai fait un stage pendant les vacances à IPSUP. Donc, IPSUP, c'est ce qu'on appelle une prépa payante. C'est une prépa où il y a quasiment que des cubes. Ils mettent tout le monde à HEC. Tu payes 10 000 euros l'année. Et voilà. Et ça se passe bien. Pour info, Grand Champ, du coup, ça coûte, je crois, 1 500 ou 2 000. Enfin, bon, c'est une prépa privée, mais qui coûte pas très cher. Et donc, j'ai fait ce stage à IPSUP. Et dans la salle, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être. C'était Henri du Rire Jaune, qui faisait sa prépa là-bas, je crois. Et donc, on était ensemble pendant. J'ai fait stage de maths une séance. Et après, j'étais en dessous de mon niveau. Donc, j'ai quitté. Et ensuite, on a fait stage de géopolitique. Et bordel, je vous jure, à l'époque, je l'ai trouvé nul à chier. je l'ai trouvé affligeant. Je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il essayait d'attirer l'attention. Ça m'a semblé tellement bizarre. Après, peut-être qu'avec maintenant, avec mon œil de créateur de contenu, etc., j'aurais pas jugé sa personnalité, qui était peut-être aux antipodes de ce que j'étais moi. Mais je l'avais trouvé nul. Et après, donc, il a cubé, il a eu l'ESSEC. Donc, cubé les potes. C'est hyper méprisant. Non, c'est pas du tout ça que j'insinue, mais je pense que voilà, c'est pas corrélé à l'intelligence, vous savez. Mais bref, en tout cas, j'avais été surpris, tu vois, de voir le niveau. Mais je crois qu'il n'était pas IPSUP d'ailleurs en seconde année. Bref, et là où ça m'a permis de me rendre compte, bon, on n'est pas si mal préparé dans ma prépa. Bref. J'ai absolument pas réussi à rattraper cette remarque. Donc voilà, moi, pendant cette période de révision, c'est celle où j'ai vraiment réussi à passer un cap en maths. Je sais pas, ce que j'ai fait que des EDEC. J'ai assumé que mon niveau était mauvais, mais pas assez bon pour les parisiennes. J'ai fait que des EDEC et ça m'a débloqué sur tous les sujets de parisiennes. Donc j'ai eu un déclic de confiance en moi d'abord et ça m'a beaucoup fait penser. Il y a une citation qui a beaucoup tourné d'Alex Hormozy qui disait que la confiance en soi, c'est pas se dire des affirmations devant le miroir que quoi t'es le meilleur, c'est construire un stack de preuves indéniables que tu es qui tu dis être. Donc, en gros, moi, j'ai réussi je me suis vraiment mis en situation pour faire des sujets d'EDEC. J'ai réussi à en faire 80%, 90%. Et ça m'a mis la confiance. Du coup, je suis arrivé avec plus de confiance pour le M Lyon, plus de confiance pour les sujets HEC, etc. Donc, la confiance, ça se construit par petits pas. Ça te permet de pas paniquer. Donc, ça, c'est la semaine de révision et arrive le concours. Écrit. Parce que le concours est en deux parties. Écrit et oral. Donc moi, je l'ai passé à Hoche, au lycée Hoche, que vous connaissez peut-être, qui est un lycée magnifique à Versailles, mais vraiment sublime. Dans une grande salle, il y avait plusieurs salles, les unes à côté des autres, donc j'étais avec 150 étudiants, les tables, elles sont écartées de exactement 2,25 m, enfin bon bref, c'est ridicule, mais c'est un environnement stressant, t'as tes tables, tes brouillons de couleurs différentes pour pas que tu puisses prendre le brouillon du mec à côté de toi, et je me rappelle vraiment comme l'un des pires moments de stress de ma vie. Aussi parce que ça dure 3 semaines, hein. Les cours, t'as tellement d'épreuves entre toutes les écoles que bah tu y es pour une durée énorme quoi. Et donc là, Je me rappelle pas de tous mes sujets, je me rappelle juste que ça commençait par les maths de l'EM Lyon que j'avais chié allègrement, j'ai pas une très bonne note. J'ai paniqué, mais bon, moi j'ai pu déverser mon stress sur ce premier truc et me mettre en condition de concours pour aborder des sujets un petit peu plus compliqués, comme le sujet de culture générale d'HEC, qui était un monde sans nature. Voilà, donc c'est ça que. Donc 2 ans de travail pour un monde sans nature. La culture générale, c'est intéressant parce qu'en fait, comme avec les maths, ça fait partie des 2 sciences du raisonnement en prépa. Tout le reste, ça n'en est pas. Et mine de rien, ça t'apprend comment déchiffrer des problématiques. C'est des trucs dont je me sers un peu quand même aujourd'hui. Donc je me souviens par exemple, dans un monde sans nature, on peut se demander qu'est-ce qui est contre nature. Et donc contre nature, le mot contre, c'est à la fois quand t'es contre quelque chose, donc en opposition, mais c'est aussi pour être contre quelque chose, il faut être en appui, quand t'es appuyé contre un mur. Et donc t'as un peu cette ambivalence sur laquelle tu pourrais largement construire une dissertation. Et ça t'apprend à décrypter des sujets, et donc la méthode elle est très simple, c'est qu'il faut commencer par définir les termes du sujet. Et quand tu définis les termes, tu trouves finalement un paradoxe dans le sujet. Si tu trouves pas de paradoxe, t'es mort. Vraiment. Tu n'écris rien sur ta copie double, tu sais que t'es mort. Et c'est ça qui est très intéressant dans pas mal de sujets que tu peux traiter dans ta vie professionnelle, c'est commence par bien définir ce dont tu parles, et je te jure que tu vas trouver des trucs que les autres n'ont pas vus. Ne te jette pas sur les problématiques. Ne fais pas comme ce mec qui est venu commenter mon post LinkedIn, qui a même pas cherché à comprendre ce que je racontais. Il a même pas écouté le podcast. Enfin bref, oh, Jean-Piette. Non, je le coucherai ce week-end. Pas tout de suite. Où est-ce qu'on en était? Donc, ce qui est intéressant avec le concours, c'est que ça doit être discriminant. Ça veut dire que si les épreuves sont trop faciles, tu peux pas savoir qui est bon. Et ça, c'est un problème quand tu veux les meilleurs. Donc, ça veut dire que les sujets de maths, par exemple, ils sont faits pour ne pas être terminés. Si quelqu'un termine un sujet de maths, c'est que c'est un échec du correcteur, enfin du mec qui a fait l'épreuve. Parce que ça veut dire qu'il a pas, il a pas, enfin, il aurait pu faire un truc plus dur et donc permettre d'identifier qui était plus fort et donc de niveler les gens. Et donc, c'est en fait la personne qui allait le plus loin dans le sujet qui donne le 20 pour l'épreuve. Et ensuite, voilà, ça descend au fur et à mesure. Et donc, il y a genre une grille de correction, etc. Voilà, et donc ça, pourquoi est-ce que c'est important ce truc-là? C'est parce que c'est pour ça que les examens sont durs, c'est pour ça que je trouve qu'un entretien d'embauche doit être challengeant. Pas irrespectueux, mais challengeant. C'est parce que sinon, tu peux pas permettre aux gens excellents de te montrer qu'ils sont excellents. Et tout le monde est bon, quoi. Et donc, voilà. Alors après, moi, là, cette première épreuve, je vous ai parlé de... Je suis désolé, je souffle dans le micro, hein, j'ai pas d'antipop. J'en prendrai probablement pas la flemme. Donc, voilà. Bouchez vos oreilles. Je me souviens de ce salaud à la fin de l'épreuve de M. Lyon, qui, lorsqu'il avait terminé l'épreuve, il avait son pote. En fait, il était dans un coin de la salle. Et son pote était dans l'autre coin de la salle. C'est-à-dire, pour se parler, il devait parler avec un volume de décibels qui fait que toute la salle entendait. Et donc, déjà, bon, je vous épargne tous les gens de Ginette, etc., qui partent en avance des épreuves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, partir en avance le jour du concours, c'est ridicule. Même si tu n'as rien à faire, tu restes jusqu'à la fin, tu relis ta copie 1200 fois. Et jamais tu pars en avance. Et en fait, les gens de Ginette, ils s'en foutent tellement de l'EM Lyon. Ginette, c'est Sainte-Geneviève, c'est un lycée à Versailles où tout le monde est en internat. Donc en gros, quand tu rentres là-bas, globalement, t'as HEC, quoi. C'est l'une des meilleures prépas de France. Et ils ont un peu cette réputation de faire de l'intox. Donc en gros, ces 2 personnes-là aux 2 coins de la salle, il dit à son pote, c'est Victor, parce que du coup, je l'ai vu à HEC après, on s'est retrouvés. Je trouve qu'en fait, il est sympa. Il dit, je l'ai défoncé. En parlant de l'épreuve. Franchement, tout fini, trop facile. Et toi, tu viens de passer un sale quart d'heure. Tu sais, parce qu'il y a des gens de prépa de tout horizon dans cette salle. Pas que des gens qui ont réussi. C'est horrible. Et donc, en fait, c'est pour faire de l'intox et te ruiner. Je vous jure qu'il y a des gens, ça les a affectés mentalement sur toute la semaine, tout le reste du concours. Ils se sont dit, attends, moi, je viens de galérer sur un truc. Le mec, il me dit qu'il l'a défoncé. Mais c'est horrible. Donc, c'est voilà, une technique comme une autre, pas très propre, c'est un coup bas. Mais ça marche. Voilà. Et donc cette semaine de concours pour moi est un tunnel, hein, j'ai un peu blackout, honnêtement je me rappelle pas de comment ça s'est passé, je me rappelle juste que c'était hyper 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 stressant, c'est la pire période de stress de toute ma vie, je me rappelle juste de la musique que j'écoutais en fait, pour aller jusqu'à l'épreuve. Donc cette semaine de concours s'achève, tu termines tout, tu te casses, nous on s'est cassé 3 jours avec tous les élèves de prépa pour souffler, on est parti à Berlin, pour faire voilà, te sortir un peu faire la fête 3 jours et couper, et ensuite tu rentres et tu prépares les oraux. Sauf que la nuance, le truc qui est compliqué avec les écoles de commerce, c'est que toutes les écoles n'ont pas les mêmes oraux. Et donc, tu ne sais pas quoi tu as fait. Les oraux, ils sont différents. Pour la majorité des écoles, tu as un entretien de personnalité, donc ça, tu es assez sûr que tu dois le préparer, sauf comme par hasard. À HEC, ça en dit long hein, sur la place qu'ils accordent à la personnalité des gens. Ils s'en foutent, en fait. Il faut qu'ils soient bons. Donc, tu as, par exemple, un oral de maths à l'ESCP, mais tu n'en as pas à l'EM Lyon, tu n'en as pas à l'EDEC. Et donc, ça fait que selon quelle école tu penses que tu vas avoir, tu dois choisir ce que tu dois réviser. Et qu'est-ce qui est spécifique, c'est qu'à HEC, tu as plein d'épreuves qui ne sont que à HEC. L'épreuve de géopolitique orale, elle est qu'à HEC. L'épreuve de culture générale, elle est que à HEC. Et ensuite, l'épreuve, je vais vous en parler juste après, l'épreuve de triptyque, elle n'est qu'à HEC. Donc, globalement, ce que tu peux réviser, c'est les langues et les maths si tu penses que tu vas avoir l'ESCP. Donc, moi, je choisis de bosser ça. Donc, ensuite, vient le jour des résultats des écrits. Donc, c'est là où tu sais si tu es admissible ou pas admissible, ça veut dire que tu as les notes pour aller faire les oraux. La première chose dont on apprend les résultats, c'est évidemment HEC. Donc, moi, pour vous dire à quel point je pensais vraiment pas du tout l'avoir, je suis parti jouer au basket pendant les résultats. Donc, quand les résultats étaient publiés, j'avais même pas prévu de charger le site. Je voulais le charger en fin de journée, quand tout le monde savait, etc. Donc, je joue au basket, et là, je vois, quand je termine, je vois 40 appels manqués. En fait, c'est un pote qui m'avait appelé. Donc là, je découvre, il m'appelle, il me dit, mon gros, t'es admissible. Je vais vérifier sur le site. Je pète un câble. Surtout qu'en plus, il y avait eu un bug, parce que les résultats d'HEC sortaient en même temps que les résultats de Grenoble. Il y avait pas mal de notes qui étaient partagées. En fait, Grenoble avait eu un bug sur son site et avait affiché les notes. Et donc, je découvre que je suis à 14,5 de moyenne. Donc, je suis plus ou moins à la barre, pour dire. Donc, en gros, à HEC, tu as 700 admissibles et 380 admis. 700, c'est ça? Et 380 admis, donc après les oraux. 700 personnes passent les oraux, ils en gardent que 380. Et donc, être à la barre, ça veut dire que tu es autour de 380, à peu près, tu sais, par rapport aux moyennes des années précédentes. Donc, je découvre que j'ai mes chances, vraiment. Donc là, je fonce à Gilbert Joseph. À l'époque, j'achète des bouquins de maths, parce que du coup, j'ai pu retravailler les maths depuis le concours, quoi, depuis la semaine des révisions. Et ça s'oublie vite. Je découvre ensuite que je suis admissible ESCP et je ne suis pas admissible ESSEC du tout. Donc, parce que j'ai pris 7 en géopolitique. Ça m'a saoulé. Donc voilà, bref, moi, dans ma tête, je me dis j'ai 5 jours pour jouer le tout pour le tout pour HEC. À aucun moment, je pense que je vais l'avoir, surtout parce que je n'ai pas utilisé les semaines de révision des oraux pour réviser les maths, enfin, toutes les épreuves d'HEC qui ont des gros coefs. Et donc, comme par hasard, moi, je suis dans la première session d'HEC, donc j'ai que 5 jours. J'ai 5 jours exactement pour réviser. Je suis dans la première session et donc à aucun moment, j'y crois. Donc là, le niveau de stress aux oraux, il est encore pire, surtout quand tu sais que tu n'as pas révisé. Enfin, que tu n'as pas révisé autant que les autres. Hein. Vous avez compris, réviser 5 jours, c'est que dalle, en fait, par rapport à tous les gens qui ont révisé depuis longtemps. Donc, je commence par l'anglais. Je fais le pire oral de toute ma vie, au point que la correctrice au milieu, elle m'arrête, elle me dit « Je sais que tu es stressé, mais hyper gentil, hein, elle était sympa, elle. Je sais que tu es stressé, mais est-ce que tu veux qu'on prenne une pause ? Tu as l'air très stressé. » En anglais, hein, tout ça. Donc ça se passe pas très bien. Je crois que finalement je prendrais peut-être 12 ou 11 en anglais, ce qui était vraiment la matière sur laquelle je comptais, donc c'est dur. Bon, puis la géopolitique, là je me souviens de mon sujet. J'ai eu « Le monde est-il multipolaire ou polycentrique ?» Alors ça peut vous paraître un peu barbare comme sujet, mais c'est un sujet facile à l'échelle d'HEC. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle, en fait, parce que tu es par groupe de 3 ou 4 à passer sur le même sujet, donc tu passes à la suite. Et en fait, le meilleur met le benchmark. Donc plus tu as un sujet facile, plus tu sais que le meilleur, il va faire une dinguerie, quoi. Donc plus ça va être dur, plus tu vas être excellent, parce que tout le monde connaît des choses. Donc plus la barre, elle est haute pour faire quelque chose de stylé. Je sais pas si vous avez compris. C'est toujours noté selon tes pairs. Donc la géopolitique, j'arrive plus ou moins à m'en sortir. Je crois que finalement, je prendrai 13 ou 14, ce qui est pas mal. Et ensuite, le putain de triptyque. Alors là, le triptyque, c'est quoi ? Le triptyque, c'est une épreuve tripartite. Tu vois, un argumentateur. Bon, il y a un attaquant, un défenseur qui s'appelle le répondant et un observateur. Tu découvres un sujet, mais qui est absurde. C'est une citation de poète, des trucs, mais. J'ai pas réussi à me rappeler des sujets que j'avais vus. Et le rôle qui est le plus dur, en fait, c'est l'observateur. Donc, en fait, c'est un débat, donc t'as un jury. L'observateur, c'est celui qui prend des notes et qui doit faire une synthèse du débat à la fin. Et si tu rates une seule chose, t'es mort. Parce que le débat, il a lieu, tu restes avec le jury, et tu t'es cuisiné pendant une dizaine de minutes, t'as l'impression ressenti 4 jours, hein, évidemment. C'est horrible. Donc le triptyque, j'arrive plus ou moins à m'en sortir, je sauve les meubles. Mais moi, en fait, le truc, c'est que j'étais pas excellent en point de vue compétence, mais j'étais tchatcheur. Enfin, j'étais plus tchatcheur que la moyenne. Des gens qui s'étaient enfermés dans leur bouquin. Et ensuite vient l'oral de culture générale. Alors, mon sujet de culture générale, c'était quoi ? C'était ne s'étonner de rien. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai une bonne note. J'ai eu 14. parce que je m'étais souvenu d'un truc que j'avais lu dans un bouquin, c'est qu'un étonnement qui dure devient de l'admiration. Et donc j'ai axé toute ma dissertation dessus. J'étais en train d'essayer de me rappeler, mais je ne veux pas faire genre je me rappelle de ce que j'ai raconté, hein, c'est très dur. Et c'est très marrant, c'est que quand tu sors aussi des oraux, donc de culture générale, moi je savais que je m'étais pas trop mal débrouillé. Tu discutes avec les autres des sujets qu'ils ont eus et c'est chaud. En vrai, tu découvres que ne s'étonner de rien, c'est peut-être dur, mais quand t'entends qu'il y a eu l'ornière montre-t-elle le chemin, c'est un vrai sujet. Quand il y a eu le sujet le vin, tu remercies le ciel. Il y a quand même une énorme partie d'aléatoire aux oraux, il faut pas se mentir. Et ensuite, je termine par mon oral, mon avant-dernier, c'est l'oral d'espagnol. Donc là, histoire assez marrante, c'est que vous vous souvenez, il y a du public aux oraux d'HEC. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui me faisais épier. Et donc, je démarre ma présentation, parce que je crois que c'est une petite analyse de texte, l'épreuve d'HEC. Et au premier mot que je dis, je crois que je dis hola, de primero, je sais pas quoi, j'entends un pfff derrière comme ça, mais genre un pfff de. Ah d'accord, c'est comme ça qu'il parle espagnol le mec. Bon, évidemment le mec il se fait sortir de la salle parce que t'as pas le droit de faire de bruit, mais ça te met dans une confiance. Et du coup il y a un petit 15 secondes où le mec il sort de la salle, quoi. Il faut sortir monsieur. En fait il se foutait de ma gueule. Il se fait sortir et donc toi tu sais, tout le monde a vu, hein, tout le monde a entendu, et tu dois reprendre tout en connaissant ton niveau. Et donc figurez-vous que j'ai une meilleure note en espagnol qu'en anglais, je crois que j'ai 12 ou 13. Donc nique ta mère toi, celui qui est sorti là. Et la dernière chose, c'est l'oral de maths. Bon, l'oral de maths, j'avais vraiment rien compris à l'exercice, mais je me suis très bien fait guider par le jury. Et donc, il faut croire que les autres non plus avaient rien compris à l'exercice. Ça m'a sauvé. J'avais un sujet qui était très dur. Donc, finalement, c'est mieux d'avoir un sujet qui est très dur. Parce que, comme personne n'a rien réussi, c'est dans le feu de l'action. Et moi, j'étais bon dans le feu de l'action. Donc, la suite, voilà, des oraux, c'est. Je termine HEC, je rentre chez moi, je suis vanné, mais après, tu as envie de dormir, quoi. Et là, il faut quand même continuer la suite des oraux. Donc, moi, bon, après, ça, c'est du pipi de chien, hein, tout le reste, hein, quand tu as fait HEC. C'est un peu pédant, mais donc du coup je vais à Grenoble, je passe des super oraux, les DEC où je kiffe pas trop, l'EM je surkiffe, et l'ESCP qui est un peu mon école de cœur où je me dis qu'il faut que je réussisse tout, je m'en sors pas trop mal. Voilà, donc là je termine mon dernier oral à l'ESCP, j'ai fini. Et donc j'attends les résultats qui arrivent souvent une dizaine de jours après, et t'attends de savoir si tu cubes ou pas. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je veux dire, il n'y a pas de discussion. À l'époque, évidemment, j'avais hésité. Si tu as des bonnes chances de faire HEC, il faut cuber, je le répète. Parce que c'est toute ta vie après que tu as ce truc-là. Et personne ne se rappelle que tu as rajouté une année de prépa, de sacrifice, alors que tu as déjà sacrifié 2 ans de ta vie. Donc, je pars avec mes potes à la campagne. On se dit qu'on va regarder les résultats ensemble. Donc, on part 4-5 jours, on fait la fête, etc. Et donc, je m'étais mis une tôle juste avant les résultats d'HEC. Je me réveille très tard. J'ai perdu mon téléphone. J'avais que ça, j'avais pas pris mon ordi. J'ai perdu mon téléphone. Je vous jure, je passe une demi-heure à le chercher. Et quand t'as une demi-heure, tu sais que les résultats ils sont là. C'est une demi-heure, encore une fois, ressentie 7 jours. Cette fois-ci, encore plus. Je finis par le retrouver. Alors, il était. On s'en branle, hein, mais il était sous le pied du canapé. Je sais pas comment il est arrivé là. Mais vraiment, sous le pied du canapé. C'est-à-dire que mon écran était pété parce qu'il y avait tout le poids du canapé dessus. J'arrive à charger mon téléphone au milieu de la fissure. Je vais sur le site et je découvre que je suis 110e français. Donc je suis classé dans les 380 qui sont pris, donc je vais officiellement intégrer HEC. Et je me classe avec un classement de porc, donc ça veut dire que les gens se sont chiés dessus aux oraux, quoi. Et donc là, je me rappelle pas de grand-chose de ce moment, je me rappelle juste que j'étais dans ma voiture à l'époque pour voir les résultats, je m'étais mis tranquille. J'appelle mes parents, j'appelle mon père pleure, et je me rappelle vraiment comme l'un des meilleurs moments de joie de toute ma vie, de tout ce sacrifice qui a apporté ces résultats. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai de la peine. Pour toutes ces personnes, toute cette sphère qui ne veulent pas entreprendre des trucs gros, enfin, qui se donnent pas, qui refusent en fait cette partie sacrifice sous prétexte de confort et qui n'auront jamais l'occasion d'expérimenter le fait d'obtenir un résultat sur du travail acharné, entrepris. Rien que pour ce truc-là, je tuerais pour le revivre, le sentiment que j'ai ressenti là. Peut-être pas forcément au moment où j'ai vu, mais au moment où j'ai annoncé à mon père. Et donc mon père, les larmes de mon père, c'est un truc, toute ma vie, je m'en rappellerai. Et il me disait ça, il me disait, mais t'es HEC toute ta vie après, tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Il avait raison. Donc pour un parent, franchement, c'est lourd, parce qu'ils ont, il me l'a dit d'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont un peu un plan de carrière pour leurs enfants. Ils disent, ok, il faut qu'on le mette là, pour qu'ensuite ils puissent avoir ça, etc. Donc quand il apprend ça, pour lui, ces 20 ans d'éducation qui sont concrétisés. Donc ressentir ça tous les jours, enfin ouais, c'est pour ça qu'il faut travailler. Le sacrifice a du sens. Et ensuite, j'appelle ma mère. Et quand je l'appelle, elle fait « Ah, c'est bien, hein, mon fils. » Elle me dit rien. Et en fait, après, elle me rappelle. Je suis un peu chelou. Ok, bon, cool, mais j'étais tellement content que je note pas. Et elle me rappelle 30 minutes après. En fait, elle était au milieu d'une réunion et elle décrochait. Et tout le monde l'écoutait quand elle parlait. Donc, elle pouvait pas s'exclamer. Elle s'est sentie trop coupable, d'ailleurs, de ça, de pas avoir célébré avec moi. Donc, elle m'a rappelé après, évidemment, on a pu célébrer. Et donc, voilà, j'intègre HEC. Je passe l'un des meilleurs étés de ma vie. Et je prends toutes les leçons qui vont avec la prépa. L'année suivante, j'arrive tranquillement sur le campus de Jouy. Et on s'arrête là pour cet épisode. Je vous raconterai HEC dans un prochain hors-série que je ferai quand j'ai le temps. On part sur 1h10 finalement. Je suis allé un peu plus vite sur les parties d'après. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous me direz si vous trouvez ça intéressant. La partie un peu, voilà, vous raconter des trucs sans forcément faire gaffe aux apprentissages, même s'il y en a beaucoup, hein, dans cette aventure-là. Et parce que j'ai plein d'autres choses à vous raconter. Voilà, de ma vie ou de la vie des autres. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous ce week-end, je pense, pour un nouvel épisode classique, cette fois-ci, de Road to 10 Million, où on reprendra la structure habituelle. Donc la semaine dernière, je fais genre le mec, il l'a fait 10 fois, mais celle qu'on a fait la semaine dernière. Ben, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Bisous.